Et si je vous emmenais avec moi dans la magie de Madagascar, avec les joyaux de Madagascar, votre source de soins naturels exceptionnels. Rendez-vous sur huiledemadagascar.fr et utilisez le code MALABARY10, MALABARY10 en chiffres, pour profiter d'une réduction de 10% sur votre panier jusqu'au 31 octobre. Alors n'attendez plus, découvrez les trésors de Madagascar dès aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode. Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Malabar. Aujourd'hui, je reçois Niek qui est dans l'immobilier. Il gère avec son père une société qui s'appelle Ecofi et il est aussi le fondateur d'Extudio. Et il est principalement dans l'éco-responsabilité dans l'immobilier. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'épisode avec Niek. Bonjour Niek, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien, merci, et toi ?
Ça va bien, je te remercie. Alors bienvenue sur Malabar. Nous on a pris contact via LinkedIn, comme la plupart de mes invités, parce que tu es aujourd'hui à la tête avec ton papa d'une entreprise familiale et j'aimerais en savoir un peu plus parce qu'elle est axée sur l'éco-responsabilité. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, que tu nous dises qui tu es, où est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
D'accord, alors merci. Je m'appelle Niek, j'ai 29 ans, je vis sur Tana actuellement. Je co-gère avec mon père une entreprise de construction qui est Ecofi. En parallèle, j'ai co-fondé aussi Extudio qui est une entreprise d'études, de conception et de gestion de projets de construction.
D'accord, très bien. Donc toi, tu es full dans le bâtiment. Est-ce que tu es tombé dedans par hasard ? Est-ce que tu es un passionné du bâtiment ? Comment tu es arrivé dans ce secteur ?
Alors, on va dire que je suis un passionné, mais je ne suis pas tombé par hasard vu que mon père y était depuis bien longtemps. C'est une entreprise familiale. Il a entrepris, ça a commencé depuis 2010. Et à force de le voir travailler, de travailler pour la construction, en fait, j'ai appris à aimer la construction. Et c'est lui qui m'a inspiré dans ce domaine-là, dans ce secteur particulier.
Donc, tu nous disais que tu as repris l'entreprise familiale avec ton père qui existait, elle, depuis 10 ans. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que toi, dès l'enfance, dès ton adolescence, est-ce que tu savais que tu voulais reprendre cette entreprise en particulier parce que tu avais cette petite fibre entrepreneuriale ou alors est-ce que tu avais l'ambition de fonder quelque chose toi-même ?
Justement, en fait, j'avais l'ambition de fonder quelque chose toi-même et d'ailleurs, je viens de fonder Extudio. Que j'ai cofondé avec mes associés. Il n'y a pas mon père là, mais je suis vraiment fier d'avoir pu fonder cette entreprise qui est d'ailleurs encore dans la construction. Et après, faudrait qu'il y a quelqu'un qui reprenne aussi les choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne l'entreprise dans le développement, dans la gestion et dans la continuité des projets. Donc, j'ai repris avec une autre vision des choses qui est l'éco-construction avec mon père.
D'accord.
Donc, c'était un peu plus apporter un vent nouveau pour l'entreprise.
Tout à fait, tout à fait. Et ce vent nouveau, tu l'as eu aussi parce que tu me disais que tu avais fait un MBA en France. Donc toi, pour faire un peu le contexte aux auditeurs, tu es né, tu as grandi à Madagascar, tu as fait une partie de tes études à Madagascar et pour compléter ça, tu as fait un MBA à Paris. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience en France, surtout à Paris? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Comment tu es reparti de la France?
Alors, oui, c'était une expérience multiculturelle, je vais dire, puisque quand tu es ici, tu étais tout le temps ici à Madagascar et que quand tu arrives là-bas, tu vois les choses différemment. C'est pas comparable. Après, j'ai rencontré beaucoup de gens de différentes nationalités, de différentes origines, et j'ai appris à m'adapter. En fait, c'était surtout la notion d'adaptabilité qui était importante, puisque tu arrives, tu es tout seul dans l'établissement. Je vois que les gens sont déjà un peu imprégnés dans la culture, on va dire, occidentale. Et il y a vraiment une façon des choses qui est vraiment différente. Bon, à titre d'exemple, ici, je ne sais pas si c'est une question d'éducation, mais la façon de voir les choses, déjà à l'école, les élèves sont, ils répondent très rapidement, ils réfléchissent très rapidement en fait, et ils peuvent donner une réponse en un rien de temps. Moi, là encore, bon, comme je viens d'arriver, ce n'était pas courant pour moi, comme je viens d'une éducation malgache. C'est un peu différent. J'étais un peu, bon, ça fait, waouh, ils sont rapides, quoi.
Qu'est-ce que
Et
ça veut
bon.
dire, qu'est-ce que ça veut dire éducation malgache?
En fait, éducation malgache, c'est plutôt dans le système éducatif malgache. J'étais dans une école malgache. Qui est, je pense, un peu différent des écoles françaises. Ne serait-ce que la façon de s'exprimer, il y a différents aspects en fait de l'éducation. Que bon, c'est mon avis personnel, mais j'ai en fait ressenti ça à mon arrivée en France. Mais
D'accord.
heureusement que je me suis adapté. Assez rapidement, j'avais des amis, de la famille qui m'ont un peu conseillé sur ce qu'il fallait faire, comment approcher, comment discuter. Et c'était une très belle expérience en tout cas.
Et est-ce que tu as l'impression d'être rentré à Madagascar avec un côté, entre guillemets, français, ou est-ce que tu considères que tu es rentré t'as appris, t'as écouté, voilà, t'as pris en considération, tu l'as peut-être mis en pratique pendant ton année en France, mais quand t'es rentré au pays, t'es revenu comme tu y étais parti.
Non, bien sûr que non. Ne serait-ce que la façon de, je sais pas comment on va dire ça, le train de vie en fait est déjà vraiment différent, surtout sur Paris où tout est fast en fait. C'est ici à Madagascar, c'est un peu, comment je vais dire,
Mouramour.
Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu mouramour et en fait, là-bas, t'as pas le temps d'être mouramour. Et en
Ouais.
fait, c'est cet esprit-là, en fait, surtout où on vit, on n'a pas le temps de perdre du temps, voilà, c'est ça. Et on doit être proactif, je ne sais pas si c'est le bon terme, vraiment proactif dans ce qu'on fait. Pour être efficace.
D'accord,
Et
oui.
après, bon, après, à part ça, il y a l'aspect, bon, il y a les infrastructures. J'ai une toute autre vision de l'infrastructure. Tout est tellement avancé là-bas. Tout est relié technologiquement. Dans les métros, partout en fait, tu n'as pas peur de te perdre. Tellement tout est informé. Et après, oui, ça m'a permis surtout de me forger en termes d'adaptabilité, vu que j'étais dans ma classe, en fait, il y avait, comme je l'ai dit, il y a eu différentes cultures, différentes nationalités, différentes origines, et c'était une expérience très riche socialement, relationnellement, et voilà.
D'accord. D'accord. Donc, tu finis ton MBA à Paris, tu rentres à Madagascar et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu travailles, si tu travailles?
Donc, je finis mon MBA. En fait, j'ai eu un projet. Déjà, au début, j'avais déjà toujours l'idée d'entreprendre ici à Madagascar. Déjà, pour être une valeur, pour apporter de la valeur ajoutée, quoi. Et déjà, à la fin de mon MBA, j'ai fait un projet d'études, toujours dans une approche écologique. C'était pas dans le bâtiment, mais c'était dans l'énergie. Mais c'était un projet que je voulais mettre ici en place à Madagascar. Et j'ai fait des projets, j'ai fait des projets pour Madagascar surtout. Et après, bon, il y a eu la crise du Covid. Je savais que c'était très compliqué ici à Madagascar, donc ça a été vraiment le bâtiment a été impacté. Donc je suis revenu pour accompagner mon père dans la gestion et le développement de l'entreprise qui était vraiment qui était impactée par la crise sanitaire. Donc, à mon retour, à l'issue de mes études, je suis revenu ici à Madagascar pour accompagner mon père.
D'accord. Donc, tu t'associes avec ton père. Donc, tu le disais, ton père a quand même pas mal d'expérience, une dizaine d'années, voire plus peut-être,
Oui.
avec Ecofi notamment dans le secteur du bâtiment. Mais toi, tu as eu cette expérience, comme tu le disais, en France, avec ce regard nouveau. Comme tu le disais, tu as peut-être apporté aussi un nouveau souffle à l'entreprise. Comment se passe l'association de vos compétences différentes et aussi surtout de vos visions différentes sur le secteur du bâtiment?
Alors, l'association, c'est vrai que y a une approche, il y a une façon de voir les choses un peu différente, mais je pense que on est différent mais complémentaire dans le sens où moi j'ai eu ma vision des choses là-bas. D'ailleurs, j'étais en contact avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs sociétés qui étaient dans la construction. J'ai connu j'ai approché des associations, des coopératives qui agissent dans l'éco-construction. Et en fait, il y a pas eu vraiment de difficulté à associer cette vision des choses avec mon père. Mais fallait juste que, bon, voilà, c'est ce que j'ai vu là-bas, c'est ce que j'ai appris. En fait, bon, c'était pas trop compliqué, en gros.
D'accord. Bon, ça se passe bien. Aujourd'hui,
Ça se passe
tu es
bien.
heureux d'être à la tête d'Ecofi avec ton père.
Oui, ça se passe
Super.
bien.
Si on parlait un peu d'Ecofi, parce que j'ai vu seulement à travers LinkedIn ce que c'était, mais j'aimerais que tu expliques un peu aux auditeurs. Donc, tu disais que tu étais dans la construction éco-responsable. Est-ce que tu
Oui.
peux nous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, déjà, je vais parler de pour l'éco-responsabilité, c'est une question de valeur. Nous, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui le font. Ils ont un savoir-faire, mais nous, au-delà du savoir-faire, en fait, c'est vraiment une approche. C'est une vision. C'est une démarche qu'on le fait à chaque fois, même si le client il veut pas. Nous on essaie de mettre au maximum une approche éco-responsable dans les projets. Donc nous, notre valeur, c'est déjà il y a l'innovation écologique, il y a la durabilité et surtout au-delà de l'aspect environnemental, il y a l'aspect humain dans le sens où on va si bon. Je prends un exemple. Il y a un projet très loin dans la brousse. Ben, nous, on va justement utiliser les ressources déjà, les matériaux locaux qui existent sur le terrain et également les ressources humaines pour qu'ils puissent déjà améliorer leurs conditions de vie, donc économiquement, techniquement, on les apprend les techniques pour que, déjà, oui, là-bas, en fait, ils savent déjà comment faire, mais de manière un peu plus étudiée. Donc, voilà, c'est l'approche humaine, en fait, et là, il y a aussi l'inclusion sociale. Justement, c'est de choisir, d'utiliser ces ressources sans différenciation. Et voilà en fait ce qu'on veut partager à travers l'entreprise, nos valeurs.
D'accord. Et j'en parle souvent dans mes derniers épisodes du réchauffement climatique, mais c'est un sujet tellement au sein de l'actualité aujourd'hui que je pense qu'il est indispensable qu'on en discute, toi et moi. Donc
Oui.
aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique, on en parle beaucoup. Surtout, à Madagascar, parce qu'il y a des régions qui sont très touchées. Est-ce que vous prenez en considération ce changement qui a des conséquences atroces sur l'environnement? Est-ce que vous mettez en place des choses, des choix de matériaux peut-être, ou peut-être dans le processus de construction pour contrer ou anticiper ce que vous faites sur la planète?
Alors oui, on justement prend en compte ces aspects-là. Lorsqu'on parle des constructions, en fait, c'est surtout de un, il y a l'autonomie d'énergie, c'est-à-dire l'utilisation de recyclage d'eau, eau usée, eau de pluie. Il y a aussi il y a les panneaux solaires qui par rapport à l'énergie solaire, l'électricité. En fait, il y a le premier point, justement, c'est l'autonomie d'énergie. Deuxième point, c'est vraiment l'aspect éco dans le sens où il y a moins d'empreintes carbone en utilisant justement des matériaux biosourcés. On l'appelle biosourcés. Il y a par exemple la terre crue, l'utilisation de terre crue dans les hautes terres, en fait. Il y a l'utilisation de. Il y a le toit de chaume. Il y a différentes techniques, comme il y a le pisé. C'est un peu comme un bâton de terre. Il y a la bauge, je ne sais pas si tu connais les tambougas.
Oui.
Et c'est en bauge, en fait. Et en fait, ces techniques-là, on les reprend de manière un peu plus étudiée. D'ailleurs, on a un pôle recherche et développement qui fait des études et des recherches sur ces matériaux. Pour que ça soit déjà, faut que ça soit de manière durable, mais pas que tu dis en fait, voilà, on a réussi à trouver ça, mais au final, après 10 ans, il y aura des soucis d'infrastructure. Donc, après, il y a l'aspect, comme tu dirais, réchauffement climatique dans tout Madagascar, justement, le choix des matériaux varie en fonction de la zone. Genre, par exemple, dans la côte, on est plus pour des matériaux biosourcés végétaux. Donc, il y a les palmiers, tout ce qui est végétal, il y a le bois. Et en fait, ce sont des matériaux qui, et justement, en prenant compte du réchauffement climatique, des matériaux qui aident à avoir un meilleur confort de vie. Dans le sens où dans les milieux tropicaux, il fait presque chaud toute l'année. Et avec ces matériaux biosourcés, en fait, ça permet de tempérer un peu la chaleur, par exemple. En fait, là, par exemple, c'est une démarche d'éco-construction. Il y a également il y a la conception, on va dire, aérolique, où on va plus utiliser des choix naturels de ventilation que comment on appelle ça, les climatiseurs, puisque c'est vraiment des matériaux énergivores qu'on peut pourtant remplacer avec des comment on va dire ça, des matériaux, des systèmes, comment, des systèmes
Alternatif.
alternatifs, oui, c'est ça, merci.
D'accord. Donc il y a une recherche aussi d'autonomie dans la maison
Oui,
ou pas? D'accord,
oui.
très bien.
L'autonomie, il y a le, en fait, on mise beaucoup sur l'économie circulaire, dans le sens où il y a l'autonomie, il y a en eau, vu qu'ici, c'est compliqué d'avoir de l'eau, de l'électricité, que ce soit en milieu rural ou urbain. Et nous, en fait, on fait ce qu'on peut faire on essaie de mettre en place ce système. Il y a l'autonomie d'énergie en eau, il y a le recyclage d'eau usée et d'eau de pluie, qui est un système plutôt efficace. Et voilà.
Alors, j'ai une question peut-être très très naïve, mais tous les matériaux que tu citais tout à l'heure, est-ce qu'ils sont sourcés seulement à Madagascar ou est-ce qu'il y a des choses qui sont importées?
Non, c'est sourcé à Madagascar. Déjà, l'objectif, c'est la production locale. Dans l'aspect purement éco, en fait, c'est de justement minimiser l'importation. Déjà, bon, si on va un peu plus loin, il y a le transport qui émet des CO2, il y a la transformation et tout. Là, c'est un point. Et l'autre point, c'est surtout favoriser l'économie locale, la production locale. En fait, franchement, Madagascar regorge beaucoup de ressources naturelles qu'on peut encore exploiter. On a les main-d'œuvre qui peuvent le faire, des main-d'œuvre qualifiées. Il y a également la technicité et la compétence. Et donc, nous, on veut vraiment réunir ça à l'échelle locale, à l'échelle locale. Et voilà, donc c'est un aspect en fait très important. Et
D'accord.
donc voilà, ça fait partie de nos propositions aussi de valeur. C'est de vraiment de travailler avec l'économie locale.
Alors ça, c'est un point très important que j'aime mettre en avant sur Malabar. Toi, aujourd'hui à Ecofi, donc tu fais appel à une main-d'œuvre malgache. Est-ce que tu pourrais nous citer un peu les métiers avec lesquels tu travailles et surtout, est-ce que ça a été compliqué d'en trouver? Et sinon, est-ce que vous avez formé ces gens à travailler avec vous?
Bah oui, en fait, c'est justement le cœur de ce que je fais vraiment, en fait, c'est d'apporter, c'est en fait de rehausser un peu le niveau de l'entreprise dans le sens où on suit les démarches RSE, QHSE, on les forme en permanence. Puisque bon, il y a des ouvriers spécialisés qu'on forme en permanence. Je travaille avec des ouvriers spécialisés qui n'est pas forcément, comment on va dire ça, qui a une autre vision des choses en fait. Et en fait, ce qui est compliqué des fois dans la construction, c'est la façon de voir des ouvriers. Des fois, tu dis, tu dois, c'est comme ça, et eux, ils le prennent autrement. Et justement, c'est pourquoi on les forme continuellement, tout le temps, en fait, pour qu'il y ait vraiment une qualité, une valeur ajoutée dans notre approche, en termes de construction.
D'accord.
Après, il y a l'exécution aussi avec Ecofi, il y a l'aspect conceptuel et études, puisque c'est un point très important aussi. Et c'est un peu, on a l'idée en fait, c'était justement de détacher cet aspect chez Ex-Studio. C'est vraiment une autre organisation. Et là aussi, il y a l'aspect conceptuel et études où il faut suivre des normes. Il y a des normes à suivre pour qu'il y ait vraiment une qualité optimale.
D'accord, très bien. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de construction que vous aviez, que vous avez faite ou que vous allez faire, qui t'a marqué, que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, parfois vous avez peut-être des projets dans la brousse où vous devriez peut-être, vous devriez mettre en place le recyclage des eaux, qui peut être quelque chose de compliqué, ou voilà, un exemple de construction qui t'a marqué.
Alors, bon, moi, là, je viens récemment d'arriver, mais ce sera plutôt un projet qui va arriver. C'est un projet de bâti ancien, en fait, réhabilitation de bâti ancien. C'était du Changas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de te dire, mais nous, en fait, en parlant de valorisation de la production locale, nous, on est vraiment très Changas. On veut vraiment, dans notre valeur, on veut vraiment redonner une identité au Changas.
Et ça veut dire quoi, Changas? C'est dans l'usage...
Oui, pardon. Oui.
Vas-y, définis-moi Changas, s'il te plaît.
Non, bah, en fait, Changas, ce sont les maisons traditionnelles malgaches.
Donc les maisons en briques rouges.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Les bancs en briques rouges avec les vérandas, avec les toits en tuiles. C'est pour nous, en fait, c'est un patrimoine qui nous tient à cœur. Et ce qui est malheureux, en fait, des fois, on voit des maisons Changas qui sont en train d'être détruites pour être remplacées par des maisons, on va dire, des nouveaux projets immobiliers.
Les maisons blanches, hyper modernes. Ok, je vois. Ouais. Je vois.
Et nous, en fait, justement, on veut redonner cette identité, cette valeur des maisons gaz avec notre touche perso. Et après, moi, je reviens au sujet de projet. Donc là, on aura bientôt un projet de rénovation d'un bâti ancien. En fait, c'est une maison de Changas. Et on a mis, en fait, on a fait que c'est un projet éco dans le sens où il y a le système de récupération d'eau. Et c'est une maison confort avec toutes les normes de construction où il y a toutes les comment on va dire ça, les conforts, on va dire thermiques, sonores. On a fait que toutes les conditions éco soient remplies. Il y a l'utilisation des matériaux, donc il y a réutilisation des matériaux non amortis. Et voilà un peu. Donc c'est un projet où on utilise beaucoup, on prime la réutilisation des matériaux. Et il y a la récupération d'eau. Et voilà.
Et en moyenne, quand vous avez un projet, alors peut-être que toi, tu sauras pas, mais je sais. Attends, ça, Maillet, tu vas couper parce que ça va pas. En matière de projet, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps vous mettez, que ce soit de l'étude jusqu'à la réalisation de la maison?
En fait, c'est justement, bon, c'est un peu compliqué des fois. Ça dépend du client. Ça dépend du client parce qu'il y a des clients très réactifs et tout peut enchaîner très rapidement. Donc, ça peut aller de un mois jusqu'à, on va dire, 6 mois. Ça peut être comme ça, en fait. Si le client est très réactif et qu'il valide tout ce qu'on lui propose, bah, là, ça peut être rapide. Ça peut aller jusqu'à un mois. À partir de l'étude jusqu'à la construction, mais s'il y a beaucoup de va-et-vient, de validation, et si ça dépend de l'envergure du projet aussi, donc ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et justement, là, bon, c'est. En fait, là, je suis très focus sur X-Studio aussi. On a des projets en cours qui sont en cours d'études. Et c'est justement, en tant que nouvelle entreprise, on débute, le cycle de vente est très lent, on va dire. Et à partir du premier contact avec le client jusqu'à la réalisation du projet, ça met énormément de temps, indépendamment encore des contextes, on va dire, sociaux, politiques, économiques. Mais bon, on s'accroche.
Mais après, vous êtes quand même, c'est sûr que c'est long et ça, je peux le comprendre. Après, dans le domaine de l'immobilier, je ne connais pas le contexte à Madagascar. D'ailleurs, j'aimerais après que tu m'en dises un peu plus. Mais c'est aussi des gros projets. Je veux dire, c'est un investissement financier, beaucoup de temps, d'énergie, même si bien sûr, vous êtes là pour tout mettre en œuvre. Vous faites toute l'exécution. Mais je veux dire, l'idée principale et bien sûr, les retours dont vous avez besoin viennent du client. Donc, c'est peut-être aussi normal, mais je peux comprendre que ce soit difficile. Ouais. Et du coup, ma question était aussi, parce que là, on parle beaucoup de maisons, d'éco-responsabilité, de choses qui peuvent pas forcément parler à tout le monde, parce que notamment l'empreinte carbone, tout ce qui est protection de l'environnement, c'est pas forcément des choses qui sont intégrées dans toutes les générations. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le type de clientèle que vous avez aujourd'hui, que ce soit en prospect ou en client, avec qui vous conversez aujourd'hui?
D'accord. Avec Ecofi, actuellement, c'est plus des particuliers. C'est plus des particuliers. Après, pour X-Studio, ce sont les promoteurs immobiliers. X-Studio, en fait, c'est plus des gros projets. On mise sur des gros projets. On est en cours avec quelques projets d'envergure. Et c'est surtout les promoteurs actuellement, c'est surtout les promoteurs immobiliers. Et il y a également les ONG. Mmh. On est en cours de discussion aussi pour. On ambitionne, à part le fait de étudier, construire des maisons dans le milieu urbain, on ambitionne de donner un peu plus d'impact à notre approche. Donc c'est plus des développements ruraux, des développements ruraux. Qui rime avec économie solidaire, inclusion sociale, éco-construction, durabilité. Et avec ces approches-là, en fait, on est en discussion avec des ONG. Donc d'accord. Voilà, c'est plus des gens actuellement, c'est plus des gens qui ont des grands projets pour avoir plus d'impact.
Et pour Ecofi, tu disais c'est des particuliers. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail? Est-ce que c'est des malgaches? Est-ce que c'est des étrangers? C'est des gens qui ont quel âge? Est-ce que c'est des gens qui sont partis de Madagascar et qui reviennent? Est-ce que c'est des gens aussi peut-être qui vivent même pas à Madagascar mais qui ont ce projet de construction?
Mmh. En tant que particulier, c'est plus déjà il y en a un qui est à l'étranger. Mmh. Et c'est une maison familiale qui a été rénovée, qui sera rénovée d'ailleurs. Il y a également des typologies de familles, en fait, de membres, de groupements de familles qui veulent réhabiliter leur maison. Après, il y a des jeunes. En parlant de profil, il y a des jeunes aussi, des jeunes, on va dire, une trentaine d'années qui veulent construire leur maison, qui ont des projets immobiliers personnels, qui nous approchent.
D'accord.
Je veux dire qu'il y a une variété de oui. Prospects. C'est plus large, en fait, dans la construction. Avec Ecofi, on a des typologies de clients un peu beaucoup plus larges, un peu de partout aussi. Mm. Et pour X-Studio, c'est un peu plus, je veux dire, c'est un peu plus projet d'envergure. C'est un peu ça actuellement.
D'accord, d'accord, très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vois déjà quels sont les projets futurs d'Ecofi? Est-ce que tu as des ambitions particulières pour que ce soit pour Ecstudio ou Ecofi? Quelle est un peu ta vision sur le moyen long terme?
Alors, ma vision sur le moyen long terme, c'est déjà d'être... être le précurseur, si on peut le dire comme ça, être le précurseur, le promoteur de l'approche éco-construction ici à Madagascar, et d'être une référence dans cet aspect-là d'ici 10 ans. Je ne sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, mais c'est ma vision des choses.
Je pense que c'est optimiste, Yac, c'est optimiste. Mais c'est très bien, il faut que tu sois optimiste pour que ça marche.
Après, oui, justement, bon, je vois que ça commence à être une tendance qu'on voit un peu de partout, mais qui ne se concrétise pas encore vraiment. Et moi, je veux être vraiment celui qui concrétise ce projet ici.
D'accord, mais on te souhaite beaucoup de réussite. Et effectivement, moi, j'ai déjà fait un épisode avec Lilia, qui est la fondatrice de Ivana, qui font des constructions aussi immobilières. Mais pour eux, la cible principale, c'est les gens qui ne vivent pas à Madagascar, mais qui veulent construire leur maison depuis l'étranger.
D'accord.
Voilà, donc vous êtes sur l'immobilier tous les deux, mais sur des créneaux assez différents. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Avant de terminer, j'ai 3 petites questions pour toi, avec lesquelles je termine toujours le podcast, pour avoir ta vision de Madagascar. Donc la première, est-ce que tu pourrais nous donner une expression que tu entends toujours à Madagascar, ou que toi tu dis toujours, qui pour toi reflète parfaitement le pays?
Alors, Aleph, moi, c'est ce que j'entends tout le temps. Aleph, c'est Aleph, en fait, c'est aller, c'est un signe de persévérance, de toujours vouloir avancer, même si tout est compliqué. Et avec mon équipe, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on se dit tout le tour. Allez, fais vitatique, c'est ça aussi.
Vitatique, on va y arriver.
C'est qu'on va y arriver, oui. Mmh.
D'accord.
Et oui.
Ton endroit préféré à Madagascar?
Mon endroit préféré, c'est à Mbil. C'est un petit coin, je ne sais pas si tu connais.
Pas du tout. Là, il faut que tu me situes.
C'est un petit coin à l'est de Madagascar, non loin, à 260 km de la capitale. C'est un endroit très, très convivial où il y a pas de grand hôtel là-bas, mais c'est très, je vais dire, c'est très local, où tu t'imprègnes dans la vie des autochtones, et ça fait vraiment bon d'y vivre. Donc, il y a le pangalan et la mer. Tu es entre les deux, en fait. Et pour moi, c'est mon petit paradis. C'est mon endroit préféré. Pendant mes vacances, c'est l'endroit que je préfère. Mon endroit préféré pour prendre du recul et réfléchir sur tout.
D'accord, très bien. Je note sur ma liste. Merci. Et la dernière question, c'est ton plat malagas favori?
Mon plat malagas favori, bah, pour moi, c'est les nombrites.
D'accord.
C'est les nombrites.
Est-ce que tu le cuisines?
Pas encore parfaitement. J'essaie de le faire, mais j'apprends encore. J'apprends, mais partout, en fait, à chaque fois où je vais dans un petit resto malagas, bah, c'est ce que je prends tout le temps. Et j'adore.
D'accord, très bien. Avant de terminer, je donne la parole toujours à mon invité. Donc, je te laisse dire quelques mots, si tu le souhaites, pour parler de quelque chose dont on a déjà parlé, mais sur lequel tu veux insister, ou pour partager un message aux auditeurs.
C'est surtout déjà sur l'aspect, je vais insister sur l'aspect entrepreneurial. Moi, j'incite vraiment les jeunes malgaches Entreprendre. Bon, moi, j'ai entrepris dans la construction, dans l'éco, mais surtout entrepreneurial, où ici, la culture est encore à développer davantage. Mais je vois qu'il y a déjà des incubateurs, des accompagnateurs qui accompagnent les jeunes, mais il y a encore des jeunes en fait qui sont des porteurs de projets. J'en vois beaucoup en fait sur LinkedIn, mais qui savent pas vraiment quoi faire. Et moi, je veux que, je sais pas si s'il y a des gens qui veulent accompagner ces entrepreneurs à comment on va dire ça, à développer davantage la culture, cette culture qui est un levier de développement d'un pays. Donc voilà, c'est un peu mon message, et ne jamais abandonner, agir. Pour ceux qui veulent entreprendre, agissez. Ne réfléchissez pas trop. Bon, moi, c'est ce que je fonctionne. J'agis, ensuite je réfléchis, j'apprends sur le tas. Et voilà. N'ayez pas peur si vous êtes jeune, surtout pour les jeunes. N'ayez pas peur, foncez, croyez en vos projets. Et voilà.
D'accord, très bien.
Entourez-vous surtout je vais dire des meilleurs, mais oui, des meilleurs associés, des meilleurs collaborateurs, puisque vous pourriez jamais avancer seul. Vous avez toujours besoin de quelqu'un de meilleur que vous, de meilleur que vous. Donc, bon, c'est un petit conseil en fait, juste pour les jeunes. Donc, voilà.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Niek. Merci
Merci.
pour ta volonté d'entreprendre à Madagascar et je ne doute pas que tu vas réussir. Je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt sur Malabar.
Merci, au revoir, merci, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et à très bientôt, j'espère,
À
à
bientôt.
Madagascar.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Simbach Rapefarnouk. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeo, Velum!